On commence, comme chaque année, vous savez, par un micro-trottoir sur ce que vous pensez d'un certain nombre de sujets, entre autres, puisque j'ai proposé cette année une thématique en trois verbes, qui a fait débat, hein, sur réparer, imaginer, rassembler. Et moi, j'avais vraiment l'impression que dans toutes nos réflexions depuis un an sur les sujets à traiter, c'était ça qui résumait le mieux ce qu'on avait en tête à chaque fois sur qu'est-ce qu'il fallait réparer en priorité, comment on pouvait imaginer pour faire des choses différemment de ce qu'on a fait dans le passé, et l'idée que pour que ça marche, il allait falloir rassembler, qu'il fallait que cette dynamique pour les générations qui nous suivent, en tout cas, puisse s'engager. Donc, on commencera par un micro-trottoir sur lequel réagiront d'un côté Emeline Baume, vice-présidente à l'économie de la métropole, et Vincent Bignon, économiste, conseiller en communication de la Banque de France, professeur à Aix-Marseille et d'autres activités annexes peut-être. Et puis moi aussi, évidemment, je réagirai ici à ce micro-trottoir. Mais on va commencer tout de suite par l'intervention de Julia Bonacorsi, qui est vice-présidente Lyon 2 Sciences et Société, et qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Et je trouve que c'est important ce lieu dans lequel, chaque année, on revient et où l'économie, quand même, est au centre.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Alors, au nom de la présidente de l'université dans ce bel amphithéâtre, je crois que certains d'entre vous, si vous êtes des habitués, ont pu déjà profiter de ce lieu. Alors, c'est important pour nous. On est vraiment très contents en tant qu'université qui représente une palette assez large de disciplines. On fait des sciences humaines et sociales, des lettres, des arts, de la psychologie à Lyon 2, mais aussi une université dans laquelle, effectivement, il y a un pôle de sciences économie de gestion qui comprend 2500 étudiants. Donc, c'est une grosse école aussi en termes... et puis, de nombreux domaines couverts. Hein, on aborde à l'université aussi bien la banque et la finance, le management de l'innovation, la question des risques. Ce qui fait que l'université, c'est toujours un endroit où la recherche par ces différents laboratoires vient nourrir la formation. Et je crois que, sans doute dans la salle, hein, certains d'entre vous sont enseignants, enseignantes du secondaire et sont passés par ces murs et reviennent aussi au GECO avec leur classe. L'éclairage économique, il nous concerne à l'Université Lyon 2, je pense aussi de manière plus globale, pour l'ensemble de nos filières en sciences sociales. Quelque part, ça devrait être aussi une ouverture pour tous nos étudiants et toutes nos formations. Quelques mots, puisque j'ai un temps court, mais j'aurais envie de vous dire beaucoup de choses. En prenant connaissance de ce très riche programme, des invités prestigieux, du titre et des mots-clés aussi, effectivement, que rappelait à l'instant Pascal pour cet événement, je me disais finalement, qu'est-ce qu'une université peut faire pour réparer, imaginer et rassembler ? Et nous, donc, à Lyon 2, nous portons depuis plusieurs années un projet qui est vraiment au cœur de notre stratégie d'établissement de coopération université et société. C'est une manière aussi de voir comment l'université, elle fait partie du monde, elle peut participer aussi à en prendre soin, elle peut participer et doit s'organiser pour créer des ponts, du dialogue, de la co-construction. Donc pour nous, rassembler, c'est décloisonner aussi des disciplines, faire se rencontrer différents acteurs. On a par exemple des envies de travailler ensemble sur des sujets comme les transitions alimentaires, la question du travail aujourd'hui, les vulnérabilités, la ville et les mobilités. Hein, ce sont des sujets autour desquels il faut pouvoir rassembler plusieurs regards, plusieurs manières de chercher et de former. Réparer, nous le faisons à travers une dynamique de recherche avec comment on va travailler avec les questions, les préoccupations de la société, et nous portons également des recherches participatives, vraiment comme étant un levier d'innovation sociale. Nous avons une boutique des sciences qui permet de travailler au plus près des associations et des acteurs du territoire. Et puis, imaginez, ça se fait aussi, évidemment, l'université n'est pas forcément là pour produire des réponses clés en main, pour fabriquer d'ailleurs des récits qui seraient homogènes et qui susciteraient une adhésion immédiate de tous, mais au contraire, pour créer du débat et pour apprendre à formuler des problèmes. Finalement, je me dis qu'on est souvent plutôt un endroit où on formule des problèmes, on va chercher des réponses. À travers de la modélisation, de la simulation, des projections vers le futur, mais aussi dans le temps long. Et je crois que quand on voit le programme des GECO, ces différentes articulations, on les retrouve hein, entre la pluralité des acteurs qui vont dialoguer pendant ces journées. La manière de penser et de construire les questions ensemble qui sont au cœur de cet événement. Alors, je voudrais remercier vraiment Pascal Lemaireur, d'abord, pour sa confiance. Je me réjouis vraiment de la contribution de l'université, du partenariat aussi qui se renforce, je le souhaite, pour les prochaines années avec les GECO. Je remercie aussi pour leur engagement tous les intervenants, nos collègues qui ont organisé des sessions et qui œuvrent pour cette édition. Merci à la Fondation, à Hélène Martinon, à l'ensemble des partenaires et des mécènes, et puis à toutes les équipes qui vont là rendre possible ces journées que nous sommes très fiers d'accueillir, au moins pour cette séance d'ouverture à Lyon. Donc je vous souhaite d'excellentes journées, voilà. Et puis de beaux moments de travail et d'échange pendant ces 3 jours.
Merci beaucoup, Julia. J'espère qu'en haut, tu as donné envie aux classes qui sont là. Quand j'étais lycéen, moi, j'aurais bien aimé, comme ça, être accueilli et me dire, j'ai la vice-présidente de l'université qui me donne envie de venir. Ça ne s'est pas passé comme ça pour moi, je vous le dis tout de suite. C'est bien dommage. Donc, profitez-en. On va donc commencer ce micro-trottoir. Vous savez que, comme chaque année aussi, vous pouvez poser des questions par SMS. Vous avez le numéro de téléphone qui est affiché là, 07 67 67 98 41. J'ai une tablette et alors on va aller très très vite hein, parce qu'il nous reste à peine une petite cinquantaine de minutes. Mais j'essaierai bien évidemment, s'il y a des questions, de les insérer ici dans les remarques que nous pouvons faire les uns et les autres. Et donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. On a 3 micro-trottoirs qui correspondent aux 3 verbes que j'ai proposés au départ. Donc, on lance le premier micro-trottoir sur réparer.
On arrête les déplacements en avion quand c'est juste pour aller à Marseille, tu prends le train par exemple, ce serait bien d'éviter de faire plus de trous dans la couche d'ozone que ça, d'arrêter de penser que individuellement on n'a aucun impact.
Avoir toujours le pouvoir de discernement et d'avoir ce lâcher prise nécessaire à faire venir le flot de la vie.
Sur un futur piéton, ou en tout cas où il n'y a plus de moyens de transport individuels carbonés.
Un monde qui soit plus respectueux de la planète hein, tout d'abord.
Gros manque de personnel, de moyens, je pense, aussi.
Ils sont overbookés, surchargés, et ce qui, malheureusement, dégrade un peu la qualité de ce service.
Les gens, ils ont moins envie de travailler aussi. On voit que ça bouge beaucoup au niveau des équipes, ça tourne tout le temps.
Des services publics qui semblent stagner en termes d'offres et de moyens dont ils disposent, voire même peut-être certains cas de fermeture.
La santé, il y a un problème certainement d'accès à la profession.
Ils ont beaucoup moins de moyens. Il y a beaucoup moins de personnel aussi, ça évolue un peu, pas dans le bon sens.
Même s'il est clairement ébranlé et qu'il subit, il y a beaucoup de failles, il tient quand même la route.
Le fait que de moins en moins de gens veulent faire des métiers aussi difficiles en étant si peu payés.
Des coupes budgétaires.
Essayer de prendre du recul et surtout être à l'écoute des uns et des autres.
Il est important déjà de faire un métier qui nous plaise, qui corresponde à nos valeurs, je pense.
La qualité des locaux, leur localisation, si c'est pas trop loin du lieu où on habite.
Avoir un espace qui soit assez convivial.
Si on travaille avec des bonnes personnes, on aurait déjà une meilleure qualité de vie au travail.
Le bien-être au travail, sans stress.
Une bonne qualité de vie au travail, ça passe avant tout avec un bon équipement.
Si jamais on a des problèmes au travail, je crois qu'il faut en parler à sa hiérarchie.
Non, une considération de la part du patron.
Un bon salaire.
Il faut savoir déjà décrocher du travail aussi pour avoir sa vie personnelle.
Une bonne cohésion d'équipe et des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise.
Bon, beaucoup de choses ont été dites finalement, si vous regardez avec ce micro-trottoir. On a commencé par la question de l'environnement. Il y a vraiment un défi autour de l'environnement. Et je pense que Vincent, tu pourrais peut-être nous dire un peu, est-ce qu'on arrive à relever ce défi ou est-ce qu'on prend beaucoup de retard ?
Alors, bonjour à tous et merci d'être là. C'est un plaisir de venir à la session d'ouverture. Sur l'environnement, il y a une dimension qui me marque, moi, quand je regarde les différents endroits et personnes à qui je parle sur Terre, c'est que l'Europe est quand même plus avancée dans sa prise de conscience, y compris individuelle. Donc individuellement, et on l'a entendu dans le micro-trottoir, chacun a une idée de comment faire pour que le climat, la biodiversité aille mieux. Donc c'est déjà quelque chose qui est une prise de conscience qui existe et qui est, je pense, une caractéristique plutôt européenne qu'ailleurs. Si on va aux États-Unis, très vite, on va tomber sur des solutions qui vont être collectives. Alors, du coup, j'en arrive à la deuxième partie de, je pense, ta question, qui n'est pas du tout sortie, en fait, dans le micro-trottoir. Hein, parce que moi, j'ai vu les rushs, je peux vous le dire. et effectivement, quand on nous pose la question de que faire pour que l'environnement aille mieux, pour que la biodiversité aille mieux, pour que le dérèglement climatique, on arrive enfin à lutter contre. En fait, il y a peu de solutions collectives. Il y a quand même un accord qu'on a tous signé, enfin, qu'il y a beaucoup de pays du monde, qui s'appelle les accords de Paris. Et nous, la Banque de France, on n'est pas en charge du climat, on est en charge de la lutte contre l'inflation, on est en charge de la stabilité financière, c'est-à-dire la préservation de l'épargne et de la stabilité bancaire. Mais par contre, on est une institution publique et en tant que telle, en fait, les accords de Paris s'imposent à nous, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si, en fait, la question climatique pouvait ne pas avoir d'impact sur nos activités ou même peut-être comme si les questions financières ou les questions monétaires ne pouvaient pas contribuer, en fait, au dérèglement climatique ou à la perte de biodiversité qu'on est en train de connaître. Alors, c'est une prise de conscience qui est un peu bizarre. Peut-être vous voulez vous dire, mais vraiment, enfin, il y a des gens qui nous disent ça. Il y a des gens qui nous disent, mais en fait, le climat, c'est très, très loin de votre métier. On ne conteste pas que le climat est très, très loin de notre métier. Notre problème n'est pas de savoir si c'est très, très loin ou pas. Le problème est de savoir, par exemple, le dérèglement climatique, on le sait tous, c'est des risques physiques. C'est par exemple des sécheresses, c'est des inondations, on le voit constamment. Et ceci a un impact direct sur notre analyse à nous. Et notre analyse à nous, elle porte sur la croissance économique, de l'activité économique, elle porte sur l'inflation. Et donc ne pas se poser la question de comment le dérèglement climatique a un impact sur le fonctionnement de l'économie, ça serait être, j'ai presque envie de dire, criminel. Dans le sens où nous, bon, à la rigueur, on ne ferait pas notre travail, mais un jour, on vous réaliserait tous, enfin nous, si on s'était pas rendu compte de ça, qu'en fait, ben, on n'a pas été conforme à la mission que vous nous avez confiée, qui est de faire en sorte que, du point de vue de la monnaie et de la finance, les choses se passent correctement. Donc du coup, il y a trois axes, et je finis là-dessus, parce que je pense qu'il faut que ça soit un peu rapide. Il y a trois axes sur lesquels on travaille. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le plus dur, en fait, et je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent là-dessus, c'est comment est-ce que quelque chose qui est l'économie de l'environnement, ça s'appelle comme ça en économie, a un impact avec la macroéconomie, qui est quelque chose qui est très différent, en fait, en termes de champ disciplinaire. Et nous, banque centrale, ben, en fait, on suscite en embauchant des gens, donc ceux qui sont intéressés peuvent toujours postuler chez nous, mais aussi en suscitant à l'université ou au sein de la recherche la question de comment on rapproche des champs disciplinaires. Et c'est ça qui est très bien, j'en profite pour faire un compliment au GECO, et c'est pour ça que la banque est partenaire depuis le départ, la Banque de France, pardon, est partenaire depuis le départ, c'est que rapprocher les champs disciplinaires, c'est crucial si on veut arriver à relever le défi de l'environnement. Donc le premier, c'est l'impact de l'environnement, des dérèglements de l'environnement, on va dire, qui sont causés par d'autres activités humaines sur la macroéconomie. Le deuxième, c'est, vous voyez exactement que si ça a un impact sur l'inflation ou l'activité économique, par construction, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle en finance la probabilité de défaut. C'est-à-dire, ben, on voit bien que si des agriculteurs n'arrivent pas à produire parce qu'il y a des sécheresses, ben, ils vont avoir un problème de revenus, de chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires va se traduire par des problèmes de défaut, de faillite. Et à la fin, il y a des gens qui prêtent, enfin, au milieu plutôt qu'à la fin. Et ça a par construction beaucoup de conséquences négatives potentielles qui fait que nous, aujourd'hui, on se sent extrêmement inquiet de la question climatique, en fait. On se sent extrêmement inquiet de la question climatique. Alors, en tant que personne, parce que moi, j'aime pas avoir chaud, par exemple, mais surtout en tant qu'institution, parce que pour arriver à faire en sorte que l'inflation soit contenue, que le pouvoir d'achat, ça veut dire ça concrètement, le pouvoir d'achat de chacun ne soit pas heurté ou raboté par l'inflation, ben, il va falloir comprendre comment le climat a un impact là-dessus. Et donc ça, c'est le troisième axe. Et le quatrième axe, c'est un axe sur la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va tous devoir, et je conclue avec en fait, ce que disait une partie des personnes, on sait que l'activité humaine contribue au dérèglement climatique. Si l'activité humaine contribue au dérèglement climatique, alors il faut tous qu'on arrive à comprendre quel est le type d'effort qu'on peut faire. Nous, on a une activité, je vous l'ai dit, qui est de savoir à quel moment la probabilité de défaut peut être, de non-remboursement peut être impactée par le dérèglement climatique. Ben ça veut dire qu'on se donne les moyens d'avoir une idée, de savoir quelles entreprises en particulier pourraient le plus être impactées. Et donc c'est notre troisième chose qui se passe au niveau de tous les territoires, c'est d'arriver à avoir un dialogue avec toutes les entreprises sur la question des politiques qu'on appelle de transition climatique, c'est-à-dire de transition vers une économie bas carbone. Je m'arrête là parce que faut que tu me coupes. Hein.
Bon,
je suis très bavard.
On a des questions d'ailleurs qui recoupent bien les choses, puisque j'ai une question tout de suite là sur comment faire comment on peut orienter la consommation vers des produits verts. Peut-être que vous aurez envie de répondre à cela. Vous mettez à me poser des questions qui dépassent largement le micro-trottoir et vous êtes en train de me prendre tout le programme des journées de l'économie. Donc, en fait, j'aurais pu avoir un comité scientifique devant moi et il aurait fonctionné peut-être en moins d'une heure. Parce que vous voulez parler de la dette, eh ben, on en parlera. Je vois que vous posez la question de l'information. Je trouve que c'est très intéressant en ce moment. Vous posez la question, est-ce qu'on n'envoie pas que des informations négatives? Eh bien, les journalistes économiques ont décidé de monter une conférence sur « Parle-t-on bien d'économie dans les médias aujourd'hui ?» Et vous avez une autre conférence aussi sur la demande d'informations à travers les réseaux sociaux. Et je vous le conseille sérieusement, puisque on a quand même, surtout quand les situations sont très chaotiques, dans les périodes de crise, que ce soit les guerres, que ce soit les catastrophes naturelles, les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la circulation de l'information, dans la constitution des opinions et dans la réaction des citoyens, d'un seul coup, à la vie citoyenne, on peut dire, sur leur territoire. Tout ça, on va le traiter dans les journées de l'économie, donc on va laisser ces questions-là, parce que vous êtes obligé de rester 3 jours pour avoir les réponses. Je passe quand même à un deuxième aspect, ici, du micro-trottoir, c'est les services publics. L'idée qu'il y aurait de plus en plus de difficultés du côté des services publics. Emeline, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ce qui était intéressant dans le micro-trottoir, donc bonjour à chacune et chacun, ce qui était intéressant dans le micro-trottoir, c'est que finalement, tout le monde... Toutes les prises de parole étaient autour d'une forme de soutien au service public et d'une inquiétude quant à son incapacité à répondre aux besoins de chacune et chacun. Et en même temps, quand ça jaillit sur les réseaux sociaux ou dans des débats publics, c'est pas si net que ça, puisqu'il n'y a pas un consentement de fou à mettre au pot commun, donc la question de l'impôt, pour garantir à chacune et à chacun dans la diversité des territoires, je pense en particulier aux Outre-mer par exemple, des moyens suffisants, donc en hommes et en femmes, en expertise, en compétences, en capacité de faire, comme le disait Julia aussi, en capacité de décloisonnement et de transversalité, et ça demande du temps. Donc je note qu'on devrait envoyer ce micro-trottoir à notre actuel gouvernement pour leur dire, bah, vous voyez, ça n'est qu'un micro-trottoir, c'est une photo à intenter, mais cette photo, ce qu'elle nous montre, c'est que finalement, il y a une adhésion au service public. Ça, c'est le premier élément positif. Deuxième élément, je pense, mais en particulier les étudiantes et étudiants et lycéennes et lycéens qui sont là doivent le travailler, pour moi, il faut faire un grand pot service public et service au public. Je vais faire comme Pascal, je vais vous attirer dans certaines conférences. Je pense que c'est important, en complément de ce qu'a dit Vincent, qu'on se pose collectivement la question des services à forte utilité sociale et à forte utilité environnementale. On sait tous, chacune et chacun, on le vit dans notre quotidien, notre mairie, le centre social d'à côté, la MJC, la métropole de Lyon, la région, l'État ne peuvent pas répondre à tout. Et c'est sorti aussi dans le micro-trottoir, on a tous un besoin de proximité. Pour faire vivre la proximité, il existe des dynamiques collectives portées en général et très souvent par des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et pour répondre à cet enjeu des services publics, je voulais décaler un peu le débat sur les services au public et se dire que s'il y a une prise de conscience et une certaine maturité individuelle des Européens, on va dire ça comme ça, Il y a un petit peu moins, je pense, alors c'est peut-être pas le cas dans le public ici, mais de prise de conscience de l'impact de ces organisations collectives qui réunissent donc des individus matures autour des sujets climatiques, peut-être un peu moins matures sur les sujets sociétaux, sur les questions de pauvreté, d'accélération de toutes les formes de précarité, et se dire que chacun, chacune, d'une façon ou d'une autre, on peut, tu vois, je vais faire du lien, on peut consommer des produits verts, consommer, ça peut aussi être adhérer à une association, soutenir une fondation, prendre sa part dans une dynamique collective en donnant du temps et soutenir des dynamiques autour de la lutte contre la précarité alimentaire, la lutte contre la précarité menstruelle, le soutien aux familles monoparentales, etc. etc. Et je voulais, oui, les services publics ont des difficultés de recrutement du local au national, hein, la métropole de Lyon n'y échappe pas. Et si dans la salle des hommes et des femmes et des jeunes se sentent une vocation de travailleur social, surtout venez me voir, il n'y a aucun problème, on vous accompagnera, travailleur social au sens très large du terme, hein. Voilà, on en a besoin, on a beaucoup besoin d'aide sur l'aide sociale à l'enfance, l'accompagnement de celles et ceux qui sont dans des parcours d'insertion. Évidemment, il y a une question de rémunération, c'est ressorti aussi, donc je pense en particulier à la fonction publique hospitalière. Je pense qu'on l'a toutes et tous en tête depuis le Covid, hélas, même s'il y a eu des revalorisations, c'est jamais à la hauteur de l'utilité sociale, du service rendu. Et puis je pose et je termine là-dessus, je pense aussi, pour le coup il me semble que je ne l'ai pas vu dans les conférences de cette année, mais c'est arrivé par le passé, je pense qu'on ne remet plus au cœur de nos discussions collectives et des débats politiques cette question du revenu minimum, du revenu de transition écologique, parce que parmi nous il y a des hommes et des femmes qui ont de l'expertise, de la compétence, qui ont envie momentanément pendant un an, deux ans, cinq ans, de donner du temps en proximité, à son quartier, à sa commune, pour des réseaux de réparation, pour de l'accompagnement des jeunes, des enfants, etc. Tout ça, ça relève de formes d'organisation dans une société post-croissance qu'on devrait pouvoir initier ici et maintenant, dans la plupart des territoires français, et on n'y est pas encore.
Pour répondre un peu quand même à ta remarque, on aura une conférence sur le revenu universel avec Van Paris, et je pense que c'est un des sujets quand même déjà très anciens sur lequel on va pouvoir avancer. Juste petite remarque, vous m'envoyez des questions toujours sur les autres conférences des journées de l'économie, c'est absolument incroyable. Je vois qu'il y a le coût du dérèglement climatique avec l'Espagne. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a, ça fait un an qu'on a mis une conférence sur la gestion locale des catastrophes naturelles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous allez voir qu'il y a des idées avec des chercheurs qui nous disent des choses qui prennent une résonance très particulière par rapport à ce qui est arrivé à l'Espagne. Donc là, je vous conseille d'aller voir cette conférence. Et puis les firmes transnationales, bah, je vous signale une chose, c'est que j'ai essayé de faire rentrer des grands groupes dans les mécènes des journées de l'économie, et ce n'est pas par hasard. J'ai discuté avec les économistes, et avec les économistes parce que très souvent, ces grands groupes ont des stratégies à long terme. Et pour eux, la transition environnementale, c'est forcément des investissements en termes de décennies. Donc on pourra en discuter, parce que moi j'ai été quand même frappé parfois que nos politiques ont une vision du temps qui est beaucoup plus court-termiste que ces entreprises. Et que si on arrivait à avoir une interaction plus positive entre le temps des politiques et le temps des entreprises, peut-être que notre transition environnementale, elle serait un peu mieux pilotée. Bon, vous ne répétez pas ce que je viens de vous dire.
C'est enregistré.
Dernier point. Dans le micro-trottoir, on a beaucoup parlé du travail. Et je pense que alors là, par contre, c'est une question essentielle. Je pense à tous ceux-là qui sont là-haut, nos lycéens. Je pense que ceux qui vont entrer dans le monde du travail ont souvent des attentes différentes des générations passées. Et quand on regarde, il y a beaucoup de conférences qui seront sur la question du travail, mais il y a des informations très précises qu'on a. Entre autres, il y a un index de la qualité de l'emploi qui nous montre qu'en France, eh bien, on est en dessous de la moyenne. On est en dessous de la moyenne pour un certain nombre de raisons. Je reprends les trois dimensions les plus problématiques. À partir du moment où on regarde l'emploi en France, il y a les conditions de travail très concrètes, la manière de travailler. Il y a ce qu'on appelle l'environnement de travail, entre autres le soutien immédiat par l'encadrement de ceux qui sont en emploi. Et il y a le manque de perspectives de promotion. Si vous mettez ces trois dimensions-là, c'est un ensemble de frustrations, je pense, qui pèse très très lourd, puisqu'à la fin, les spécialistes d'économie du travail disent que si on améliorait le management de proximité, alors c'est évidemment des scénarios qui demanderaient à être affinés, on pourrait augmenter le PIB de la France de 5 à 10%. Grosso modo, si vous regardez ce que ça génère comme recette fiscale, vous avez quasiment résolu notre problème de dette publique. Donc derrière le travail, il y a un véritable enjeu ici, on pourrait être beaucoup plus efficace. Bien évidemment, d'abord, c'est un peu tout ce qu'on appelle les travailleurs essentiels. C'est un tiers de la main-d'œuvre en France qui sont dans des situations particulièrement dégradées. On est toujours avec les CDD, les temps partiels, les horaires décalés. Donc je crois que là, il y a un vrai sujet. Chez les jeunes, un sujet peut-être que vous verrez, qu'on appelle les NITS, les ni en emploi, ni en études, ni en formation, c'est 12% des jeunes. Et là, c'est quoi ? On est en train de perdre toute une partie de génération et on ne sait absolument pas vers quoi nous allons. Donc, je pense qu'on a un problème et qui vient peut-être d'une raison simple, c'est que ça fait très longtemps qu'en France, on est préoccupé d'abord par le chômage. On dit qu'il faudrait faire baisser le chômage et donc c'est l'accès à l'emploi, comment on peut alléger les charges sociales, etc. Alors qu'en même temps, évidemment, on crée un peu des trappes à bas salaire et qu'aujourd'hui, on se dit qu'il ne faudrait peut-être pas être totalement centré sur comment je fais baisser le coût du travail, mais comment je fais pour améliorer la qualité de l'emploi. Pour les prochaines générations, c'est la qualité de l'emploi qui sera importante, et je pense que pour notre pays aussi, si on veut maintenir une activité économique qui soit favorable au plus grand nombre. On passe au deuxième micro-trottoir. Donc, après réparer, imaginez.
Une entente cordiale entre tout le monde, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on souhaite.
Encore une fois, une bonne entente, le respect. Après, c'est des questions, enfin, c'est des notions un peu globales, mais...
C'est plus d'écologie et plus de respect de la planète.
Il s'agirait d'être tourné un peu plus vers les autres, parce que je trouve qu'on est dans une société où on est de plus en plus individuel.
Il y a la limite des émissions de gaz à effet de serre, moins manger de viande, développer l'éolien, développer les barrages.
Je dirais la devise de la France, liberté, égalité, fraternité.
Le revenu universel.
L'humain avant tout, mais il faut que l'humain trouve sa place dans la nouvelle organisation.
Peut-être plus d'écoute ?
Perso, je pense que déjà depuis que le télétravail a été mis en place, il y a une meilleure organisation.
Il faut avoir des responsables hiérarchiques qui prennent des décisions, qui donnent la vision des choses, qui donnent la manière dont on doit fonctionner.
Il y a peut-être une trop grosse pression.
Faire en sorte d'avoir une éthique et des valeurs dans l'entreprise.
Le management.
Bosse différemment et sur moins de jours.
On n'est pas obligé d'être copain-copain, mais il faut quand même avoir une bonne entente avec son équipe.
Imposer le 8h-18h, ce genre de choses, je pense qu'on mérite un petit peu plus de flexibilité sur ce point-là.
L'organisation du travail aujourd'hui, elle doit être beaucoup plus souple. Il faut vraiment tendre à aller chercher ça, cette souplesse, cette liberté de temps à un maximum.
C'est une limitation en fait du salaire maximum et une augmentation du salaire minimum.
Enfin, il y a beaucoup de précarité, je pense beaucoup aux ASH et aux aides-soignantes qui ont des salaires qui sont vraiment très bas par rapport à la responsabilité.
Le revenu universel.
Arrêter de mettre des barreaux là où il y a des gens qui voudraient juste dormir parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour dormir, genre donner des vrais logements.
En France, il y a des possibilités de s'en sortir.
Bon, beaucoup de choses encore qui sont dites. On va peut-être commencer par cette question de la pauvreté qui revient très régulièrement et je pense que, évidemment, les acteurs, les collectivités locales sont en première ligne face à ce problème très concret. Emeline ?
Alors, oui, en tant qu'élue locale de l'étape, donc je fais un tout petit peu d'éducation à la citoyenneté. Donc la métropole de Lyon, c'est un département. Les départements, ils portent toutes les politiques publiques sociales. Donc j'en ai évoqué une tout à l'heure, l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accompagnement du vieillissement. Donc quand on porte des politiques, et puis la question de l'insertion sociale et professionnelle, quand on porte des politiques publiques comme ça, forcément ce que l'on porte derrière, ce sont des questions de dignité pour répondre à la lutte contre toutes les formes de précarité et la pauvreté, la lutte donc contre les inégalités sociales et environnementales, ce qui jaillit de l'ensemble des départements de France en ce moment. Vous en avez nécessairement entendu parler au tout début du moment sur le projet de loi de finances, c'est ben voilà, c'est un coût en fait. Et comme c'est dit dans le micro-trottoir par un jeune homme, on a la chance d'être en France avec un système de redistribution qui est notre socle républicain. C'est-à-dire que on a, je vais revenir sur ce besoin de pot commun pour accompagner celles et ceux qui, temporairement ou malheureusement, durablement, sont dans des situations de précarité. Et pour garantir la dignité à chacune et à chacun, nous avons des organisations publiques qui apportent des solutions en matière d'hébergement de logement, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de découverte de vie professionnelle et en matière de prendre soin en général. Je voudrais évoquer le fait que certains départements de France, parmi lesquels la métropole, pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal, ont décidé de tester des choses, d'expérimenter une forme de prendre soin vers les jeunes, vu qu'on a des jeunes ici, avec par exemple le revenu de solidarité jeunesse, pour faire écho au RSA, qui vous le savez pas nécessairement, mais le revenu de solidarité d'autonomie, on n'y a pas accès en dessous de 26 ans. Or, ce qui a été observé, et tu l'as dit, il y a de plus en plus de décrochage chez les jeunes. Comme le dit souvent Pascal dans ses discours d'ouverture, une société qui ne prend pas soin de sa jeunesse, c'est pas très chouchou, ça interroge vraiment sur sa vision du monde. Il se trouve que l'équipe autour de Bruno Bernard a fait ce choix-là d'allouer une partie de son budget pour accompagner des jeunes en situation de précarité et les accompagner aussi vers des formes d'hébergement, des formes d'accès à l'alimentation, des formes d'éducation, de formation et d'insertion. Je voulais insister sur cette nécessaire capacité qu'on a à donner aux institutions publiques de tester des choses. Les tester, ça ne veut pas dire le tenir très longtemps dans le temps, ça veut dire se donner les conditions de l'évaluation, se donner les conditions du dialogue, en particulier les départements avec l'État, pour se dire, tiens, l'État porte quelque chose qui s'appelle le CEJ, et se dire, tiens, bah, finalement, est-ce que ce revenu de solidarité jeune, il est efficace socialement, il participe à la cohésion sociale dans le territoire de la métropole de Lyon, est-ce que demain, il ne faudrait pas le dupliquer? Je voulais donner ma réponse avec un exemple pour dire, bah, voilà, on est aussi dans un moment où il faut consolider ce principe de redistribution et il faut en même temps se donner les moyens de l'expérimentation. Il y a d'autres choses qui sont testées ailleurs autour du revenu de transition écologique. Je pense en particulier à la Gironde qui a testé des choses, donc un département. Et il y a des villes et des territoires et des députés et des sénateurs qui proposent des choses. Je pense en particulier à la sécurité sociale alimentaire, où on a bien en tête chacune et chacun que la précarité autour de l'alimentation, c'est juste quelque chose de pas acceptable en France et qu'il y a des mécanismes à mettre en place pour garantir cet accès à l'alimentation. Vous avez toutes et tous en tête les banques alimentaires et les Restos du Cœur qui débordent. Et donc, on a des collègues, comme je vais citer les collègues locaux, c'est Jérémy Camus, le collègue en local qui porte ça, et à l'Assemblée nationale, quelqu'un comme Boris Tavernier, qui a été étudiant ici, qui le porte. Je vous invite à aller lire tous les rapports autour de ça, mais je fais le focus là-dessus, sur cette question de lutte contre toutes les formes de précarité. Ceci étant dit, il y a d'autres élus locaux, d'autres collègues, députés, sénateurs, des chercheuses et chercheurs qui interviennent là, dans le programme des GECO, qui apportent d'autres solutions. Donc je voulais vraiment centrer mon propos sur, oui, les collectivités locales se fixent en général comme ligne, et c'est le cas pour Bruno Bernard, la question de la dignité humaine. Et pour tenir cette ligne de la dignité humaine et de l'égalité des droits et de la lutte contre le non-recours, il faut oser expérimenter des choses.
Merci Emeline. Au passage, pour Vincent, on me fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de seniors dans le micro-trottoir. Donc il n'y a pas qu'un problème de jeunes.
Oui, oui,
il y a un rééquilibre à mettre en place. Et justement, Vincent, sur cette question, entre autres, d'imaginer comment on pourrait changer les choses au niveau du travail. D'abord, j'ai quelqu'un qui dit pourquoi on ne passerait pas immédiatement à la semaine de 4 jours ? C'est peut-être une des questions, mais on est toujours avec le télétravail, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut imaginer une manière de travailler autrement ?
Je crois qu'on doit y trouver une manière d'imaginer autrement le travail. Je vais préciser quand même que je suis à la fois économiste, et puis vous l'avez vu, il y a marqué Banque de France à chaque fois que je parle. Donc, À chaque fois, j'essaye de parler en essayant d'être honnête sur les deux étiquettes. Hein. Donc, c'est un peu bizarre, sûrement, que vous entendiez la Banque de France parler de productivité. Pourtant, alors, au moins ceux qui ont fait un peu d'études d'économie, vous savez que la question de la productivité, c'est derrière la question de l'activité économique, donc de la croissance. Il faut savoir que nous, notre rôle à nous, le principal, c'est l'inflation. Hein. Donc, productivité, inflation, a priori, quand on n'est pas économiste, on se dit que c'est deux mondes complètement différents. Le travail, a fortiori, ben, ça rentre un peu dans ce monde. Mais en fait, vous le savez parce que vous vous intéressez à l'économie et que vous venez au GECO, en fait, les deux sont liés. Donc, je vais vous parler du point de vue de la banque et puis je vais essayer de répondre aux questions sans botter en touche sur les questions concrètes. Sur les questions concrètes, nous, en tant qu'institution, on n'a pas grand-chose à dire. Enfin, on n'est pas en charge de savoir comment on doit organiser le travail. On pense même que sûrement que le travail est mieux organisé au plus près des gens qui travaillent. Ça, ce qui paraît être une règle de bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous, en tous les cas, dans notre manière de penser notre organisation au travail, mais aussi dans la manière dont on comprend la logique d'évolution de l'économie aujourd'hui, tu l'as dit, Pascal, il y a des enjeux sur l'intelligence artificielle, des enjeux sur le télétravail, c'est-à-dire sur en fait, le bien-être au travail, mais qui peut poser aussi des problèmes pour les gens qui sont managers dans la gestion d'équipe ou pour les gens qui travaillent en télétravail de cohésion avec le reste de l'équipe. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui, pour nous, en fait, nous touchent, mais on va dire en tant qu'institution, en fait. Ça serait outrepasser notre mandat, c'est-à-dire ce que vous avez demandé de faire, que de vous dire il faut faire la semaine de 4 jours aujourd'hui. Moi-même, j'ai un avis personnel là-dessus. En tant que citoyen, j'adore la semaine de 4 jours. Enfin, en tant que citoyen, c'est... Si j'arrive à poser un jour par semaine et que je travaille plus que 4 jours, je suis hyper heureux. Mais en tant que Banque de France, je ne peux pas vous dire plus qu'en tant que citoyen, voilà ce que j'aime. Par contre, je peux vous dire quelque chose qui est quand même important, je crois, du point de vue de notre organisation économique et de la manière dont notre économie fonctionne, c'est qu'il faut qu'on concilie en matière de travail deux objectifs qui paraissent un peu contradictoires. J'ai déjà parlé de la productivité. Productivité, c'est combien on travaille pour combien on produit. Alors, ça pourrait paraître être un objectif très anti-décroissance. En fait, non, la productivité, c'est juste l'utilisation efficace de la ressource. On peut être peut-être beaucoup plus efficace dans l'utilisation des ressources et donc produire, je ne sais pas si c'est autant, parce que beaucoup de ce qu'on produit, c'est des services. Ce n'est pas des choses qui polluent énormément, enfin, en tous les cas, beaucoup moins que du commerce de biens. Mais donc, du coup, on a un problème sur la productivité. Et c'est sûr, c'est qu'en Europe et en France, on a un rythme de productivité qui est plus lent que d'autres économies comme l'économie chinoise ou comme l'économie américaine. Ça pose des questions qui sont un peu discutées à l'échelle européenne et qui devraient être beaucoup plus discutées en France, d'effectivement comment on innove. Et là, je rejoins la question de l'organisation du travail, de comment est-ce qu'on fait émerger des solutions innovantes, ce que tu disais dans le commentaire sur le travail pour le micro-trottoir de la première partie, c'est-à-dire en quelque sorte comment est-ce qu'on fait pour quand il y a une équipe de travail, en fait, des idées émergent, on arrive à être effectivement plus efficace et puis même à créer quelque chose qu'on n'est pas capable de créer autrement. Ça, c'est quelque chose qui, manifestement, pour un économiste, contribue à la productivité, donc à l'utilisation efficace des ressources. Et normalement, alors en tous les cas, je pense que ce n'est pas complètement vrai tout le temps, mais je suis assez croyant dans cette idée, ça s'accompagne avec cette innovation, avec une forme de bien-être au travail qu'on entend un peu dedans. Beaucoup de gens, en fait, disent dedans, enfin, en tous les cas, moi, je l'écoute comme ça, quand la personne dit, en fait, il faut que l'humain trouve sa place dans l'organisation. En fait, on est évidemment en train de penser à l'humain au sens de chaque personne humaine, mais on est aussi en train de penser de comment l'organisation accommode l'humain, s'accommode à l'humain, et comment, en fait, l'organisation aussi aide l'humain à changer, c'est un peu compliqué des fois d'innover. Enfin, moi qui suis ma partie chercheur, je préfère ma partie communication parce que ma partie chercheur, elle a besoin de contraintes et la contrainte, c'est fatigant. Quoi. Donc la question, je pense, au travail, le vrai défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'articuler cette question de comment être plus efficace, comment être plus productif, tout en garantissant ou améliorant le bien-être au travail. Ça nous ramène, je pense, à une question, et c'est pas pour faire la transition avec le prochain micro-trottoir, mais Daniel Cohen, qui était un économiste qui est mort il y a 2 ans maintenant, je crois, a écrit un livre qui m'a pas beaucoup marqué au départ, mais m'a beaucoup marqué au fur et à mesure. Il a écrit un livre qui s'appelle « La société de défiance ». Et dedans, il disait, en fait, individuellement, en France, en fait, finalement, on a assez confiance, avec tout ce que ça peut dire, dans notre futur. On a assez confiance qu'on va être capable de trouver des solutions individuellement, chacun. quand on interroge les gens par sondage. Par contre, et ça c'est une spécificité de la France par rapport aux autres pays européens, par contre quand on commence à parler de discussions collectives, de solutions collectives, alors là on devient très très pessimiste. Ça c'est quelque chose, moi je passe beaucoup de temps à discuter avec beaucoup de gens très différents de questions économiques, parce que bah, les gens sont intéressés par l'économie, et c'est une partie de mon travail, c'est pour ça qu'il y a marqué communication. En communication ça veut dire parler avec, chez nous, ça veut pas dire vous embrouiller, ça veut dire ça. Ça veut dire juste parler. Et donc, en fait, ce qui est vraiment fascinant quand je discute avec les personnes, c'est comment, effectivement, on a tous un besoin de penser des solutions collectives. Et notre grande difficulté, et je rejoins exactement ce que tu as dit, Emeline, notre grande difficulté est d'arriver à imaginer ça en se disant, bah, en fait, on va avoir confiance dans le fait qu'on va réussir à trouver une solution. Et je crois que là-dessus, la question de confiance et d'apprendre à avoir confiance dans le fait que, collectivement, on n'est pas en train d'essayer, alors je sais pas comment on va dire ça, de tricher, de pas respecter les contrats, enfin de pas respecter les engagements. Ça, c'est quelque chose qui est crucial pour arriver à imaginer des solutions qui, par construction, vont être collectives. C'est vrai pour le climat, et je crois que c'est vrai pour le travail. À imaginer dans un collectif de travail de 10 personnes, ben, ça veut dire se faire confiance, pas seulement quand on est au même niveau hiérarchique, mais aussi faire confiance à son chef qui aussi a confiance. Enfin, c'est des choses qui sont assez compliquées, mais je crois qu'on a la capacité de le faire. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, au fur et à mesure, ce livre de Daniel Cohen et Yann Algan sur la société de défiance.
Se faire confiance, je vais y revenir parce que justement c'était un des sujets que je souhaitais aborder sur comment vous souhaitez vivre dans la société. Juste une petite remarque, on me dit il faudra quand même nous dire qu'est-ce que peut faire la Banque de France pour l'inflation alors que ce n'est qu'une succursale de...
Elle est à 1,4.
Non mais il y a une conférence sur l'inflation.
Ouais, ouais, et deuxièmement, je réponds à cette question pour le prochain micro-trottoir, la méthode européenne.
Voilà. Bon, et vous faites remarquer aussi des choses sur la dépense publique. Je vous rappelle qu'on avait ouvert les GECO l'an dernier avec Philippe Martin, avec qui j'avais beaucoup aimé travailler, et qui était sur comment on peut mieux dépenser au niveau de la dépense publique. Je pense qu'il y a un vrai sujet là, et il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Vous ne faites pas d'ailleurs forcément tellement confiance aux économistes, mais j'espère vous convaincre sur les 3 jours qu'ils font un peu mieux que ce que vous pensez. Il y en a qui me parlent aussi de... il faudrait peut-être un peu se booster. Eh bien, se booster, à mon avis, c'est un peu lié à notre système scolaire et comment on ouvre l'horizon pour les jeunes très vite. Moi, je pense que des choses comme Erasmus, ça devrait être beaucoup plus large. Et que la meilleure manière de se booster les uns les autres, c'est d'avoir un horizon tout de suite qui s'élargit assez vite. Vous regardez tous les possibles, vous regardez ce que vous avez envie de faire, etc. Mais si vous avez un horizon qui se ferme, eh bien, pour booster les gens qui vivent depuis 10, 20 ans dans un horizon totalement fermé, c'est extrêmement difficile à rattraper. Et c'est une énorme perte humaine et économique. Donc, ouvrons les horizons. Je voulais revenir, moi, quand même, sur cette question de dans quel monde vous souhaitez vivre. Je regardais, moi, des indicateurs sur le bien-être. En fait, il y a un indicateur qui existe depuis 2016 sur le bien-être. Et bizarrement, fin août, début septembre, l'indicateur de bien-être des Français remonte, alors qu'il avait tendance à baisser. Et le CEPREMAP qui fait l'enquête dit on voit qu'un seul événement qui s'est produit, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont généré chez les Français une vision très très optimiste. Mais en fait, fondamentalement, c'est beaucoup plus intéressant parce que quand on regarde qu'est-ce qui a d'importance pour eux au niveau du lien social, puisqu'en fait on s'aperçoit que ce qui remonte, c'est la sensation qu'il y a du lien social derrière ça. Et quand on regarde la question, on leur demande y a-t-il des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter en cas de besoin, et c'est à cette question-là qu'ils deviennent plus optimistes. C'est-à-dire vraiment une relation de proximité avec ceux qui nous entourent. Et donc, je crois que derrière ça, il y a une espèce d'appréciation, en fait, des perspectives qui deviennent plus positives dans les événements positifs comme les Jeux Olympiques, mais ça peut être aussi dans le cas de situations de catastrophes, de conflits, où d'un seul coup, les gens ont besoin de recréer ce lien. Et donc, j'insisterai, moi, particulièrement là-dessus, parce qu'on le néglige, c'est l'importance de toutes ces relations, elles peuvent être familiales, sociales, professionnelles, on retrouve ce monde du travail, qui vont augmenter le niveau de résilience d'une population. Et par rapport à ce qui nous attend, il n'y a rien de plus important que d'augmenter le niveau de résilience de la population. On peut passer au troisième micro-trottoir.
Thank you.
pouvoir écouter un petit peu les salariés, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Ça permettrait un petit peu de fidéliser les équipes.
Ce qu'il faut vraiment, c'est un gros changement d'esprit de beaucoup de personnes pour pouvoir se dire, oui, ok, ben on n'est pas si mal là.
Plus de liens, quoi.
Faire comme des activités, peut-être, une fois par mois.
Elles sont dures, vos questions.
Inclure tout le monde, ce serait une bonne chose d'inclure tout le monde et pas qu'une seule partie. D'arrêter de faire croire que tout le monde est bienvenu quand on sait très bien que c'est pas le cas.
Déjà une bonne organisation, dans l'idée où on a des plans B, si justement il y a le plan A qui foire.
Genre, je sais que, par exemple, il y a des rendez-vous gratuits jusqu'à 25 ans, une fois par an chez le dentiste. Je pense que chez le psy, ça pourrait être pas mal aussi qu'il y ait ça, en fait, la reconnaissance des psychologues en tant que médecin.
Des réunions dédiées au bien-être, ce serait cool. Je pense qu'il y a certaines personnes qui gardent beaucoup de richesses pour eux, alors qu'il suffirait de, je sais pas, de redistribuer les richesses.
La relève, surtout moi j'insiste sur la relève. Les jeunes qui viennent, il faut vraiment leur donner des formations, il faut leur donner une chance.
Valoriser les petits métiers, on va dire, parce qu'il y a de gros écarts de rémunération et pourtant tout travail est utile.
En décentralisant, donnant plus de pouvoir aux métropoles et aux maires, faire confiance aux maires.
Je suis convaincu que chaque région a sa valeur ajoutée par rapport à l'ensemble du pays.
C'est déjà ce qui est mis en place, c'est des appels d'offres, etc. Mais j'ai envie de dire, on le voit encore aujourd'hui, ça marche pas.
Les transports, c'est pas égal sur tout le territoire. Il y a certains territoires où si on n'a pas de voiture, on peut rien faire. Si les entreprises étaient moins centralisées, ça répartirait davantage la population.
Ce serait d'arrêter Paris et le désert français, d'arriver à décentraliser dans toutes les régions.
Par exemple, je crois que c'est dans les Antilles, on force la population des Antilles à importer leurs produits de France, alors que ça reviendrait à beaucoup moins cher de les importer du continent américain, par exemple.
Eh ben, revenons un peu sur ces différentes questions. La première, là, c'était un peu sur les politiques publiques. Est-ce que ça peut atténuer les clivages territoriaux ? Emeline,
oui. Alors, oui, normalement, oui. Après, les politiques publiques locales, qu'elles soient à l'échelle régionale, à l'échelle métropolitaine ou intercommunale et à l'échelle communale, elles ne font que avec les moyens qu'elles ont et avec la vision politique qu'elles ont. Et Pascal, je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, il me semble, en illustrant la question des trajectoires bas carbone ou net zéro portées par les grands groupes qui sont long-termistes et éventuellement des visions court-termistes des élus locaux, quelle que soit à l'échelle de territoire, parce que notre temps d'action est le temps d'un mandat. Toutefois, comme l'a dit Vincent, en tout cas pour les sujets carbone et biodive, on est censé collectivement être OK avec les accords de Paris, donc tenir ce genre de trajectoire. Les politiques publiques locales, elles sont là, pour reprendre les mots de Pascal, pour réparer, créer du lien, c'est pour ça que c'est plus simple quand on est un département, mais aussi pour envoyer des signaux aux camarades de jeu territoriaux. Et j'ai envie d'illustrer, enfin de répondre à la question de Pascal en parlant de ce donner les moyens de la coopération. La vice-présidente de l'Université Lyon 2 l'a dit tout à l'heure, elle a pris soin de parler de transversalité et de coopération, c'est un peu dans l'ADN de Lyon 2 vu les disciplines qu'elle porte, je ne sais pas si on dit comme ça, porter une discipline en tant qu'universitaire. Il y a de plus en plus de territoires qui font le choix de commencer à travailler des contrats de coopération. Alors pour faire très simple, les cafés du commerce, on parle de relations ville-campagne, se dire tiens, en tant que métropole de Lyon, je vais acheter des denrées alimentaires, je vais reprendre le cas d'usage de l'alimentation, hein, pour la cantine des agents du service public, pour la cantine de la Pouponnière, pour mes collèges, pour les régions, pour mes lycées, etc. Et pour les communes dans les écoles maternelles et élémentaires. Et bien, et puis c'est dit aussi dans le micro-trottoir, dans mon appel d'offres, prendre soin de trouver, et on peut maintenant, des clauses qui vont facilement répondre aux capacités des acteurs territoriaux les plus proches, donc des paysans, paysannes, acteurs de la transformation en proximité, pour nous par exemple, qui ne sont pas dans la métropole de Lyon, mais juste à côté, dans le Rhône, dans l'Ain, dans l'Isère, et que la commande publique locale métropole de Lyon fasse vivre des collectifs de paysans, paysannes, d'agriculteurs, agricultrices, transformateurs, transformatrices à côté, en proximité, c'est juste au sens de la justice sociale, mais aussi de la justice environnementale, puisqu'on a besoin de maintenir des terres agricoles, de maintenir des terres qui sont en capacité de recevoir les pluies intenses, et donc qui ne soient pas imperméabilisées, etc., etc. Vous voyez là, une politique publique d'achat public, ça peut vous sembler très éloigné des sujets coopération ville-campagne, et pourtant c'est un bon outil de coopération entre des territoires ruraux en proximité et des territoires urbains. Autre sujet autour de la coopération que je connais bien, vous êtes sur un territoire large qu'on appelle carré métropolitain qui va de Saint-Étienne-Roanne à Bourg-en-Bresse, vous descendez à Bourgoin-Jallieu, l'île d'Abo, Vienne et Saint-Étienne, avec une agence de développement économique qui jadis s'appelait l'Aderly, qui maintenant s'appelle Only Lyon Co. Jadis, la raison d'être de l'Aderly, pour faire un très gros trait, c'était chasser des grands comptes tertiaires pour que des sièges sociaux arrivent, pour faire à très gros trait, dans la zone centre de notre métropole, Lyon et Villeurbanne. C'était le monde d'avant, ça faisait de l'emploi, ça faisait des cadres, ça apportait de la richesse sur le territoire, etc. Depuis quelques années, depuis 2 ans, on a changé collectivement, on s'est accordé collectivement, en gauche-droite, la Derly, les hommes et les femmes qui y siègent ne sont pas tous alignés sur une vision de transformation des territoires, mais on a réussi à s'accorder autour de cet arrêt de la chasse, de la prédation, mais d'une forme de coopération pour implanter au bon moment, au bon endroit, des entreprises qui éventuellement existent ailleurs et ont envie d'essaimer sur la diversité de nos territoires. Et quand je dis au bon moment et au bon endroit, derrière, on pense aux capacités de capacités d'accueil, donc le logement, l'habitat, le transport, les services publics, donc la garde des enfants, l'école, les capacités de formation, d'éducation, et en même temps le bassin d'emploi, et ce que tu disais tout à l'heure sur la qualité de vie au travail, les capacités aussi de progression dans l'emploi, c'est-à-dire par exemple à Roanne, on a la chance d'avoir encore un bassin de vie de textileux. On a la chance d'avoir un point de formation universitaire et une capacité de formation. Tiens, plutôt que de tout poser dans la vallée de la chimie, pourquoi on ne met pas en place des contrats de coopération? Alors, ce n'est pas encore sous forme de contrat, mais il y a l'envie politique, c'est écrit dans la feuille de route de Only Lyon Co, qui est le nouveau nom de la Derly, et c'est ce qu'on fait avec un acteur qui porte une dynamique autour du textile et un acteur que certains connaissent bien ici qui s'appelle Eric Bouel, donc un dirigeant justement qui a dans sa posture de dirigeant cette envie de coopérer avec des structures d'insertion, avec des TPE, PME, PMI et aussi avec les territoires, en ayant en tête que finalement ça se joue à l'échelle du territoire. Donc ma réponse est oui, les politiques publiques travaillent très bien ces objets-là, et j'insiste sur encore faut-il mettre d'abord et avant tout se donner les capacités de coopérer, et donc l'innovation organisationnelle, ça ne se décrète pas, ça demande du temps, et le temps c'est un coût, donc il y a un petit investissement à un moment.
Vincent, en 2 minutes, un petit sujet, là on voit bien qu'il y a la question un peu des inégalités, des injustices qui apparaît très très largement, et en plus on est un pays où on aime bien toujours qu'il y ait des petits privilèges qui nous différencient et qui créent un petit peu d'amertume chez chacun. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut en penser?
Alors, je vais répondre en tant que Banque de France. les inégalités, on l'a tous vu sur l'inflation. L'inflation, ça crée des inégalités. Et c'est vrai là. Alors, l'inflation, ça veut dire quoi? C'est l'augmentation des prix sur 12 mois. Donc, sur 12 mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,4. C'est la réponse. 1,4% par an. Sauf qu'on sait tous, au sens où on se rappelle tous, que les prix sont à peu près, ont augmenté depuis 2021 de 20%. D'accord ? Donc nous, notre objectif, c'est sur un flux de, 2% par an. Et en vrai, quand on fait la somme sur 3 ans, ça fait 20%. Donc ça, ça va créer de l'inégalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vitesse à laquelle notre capacité à nous, moi je suis salarié, à nous en tant que salarié, d'arriver à regagner du pouvoir d'achat, elle va être beaucoup plus longue que la question de l'inflation. Donc la première manière dont nous, on pense à la Banque de France, la question des inégalités, c'est dans ce qu'on nous avez, enfin ce que on s'est demandé de faire, la lutte contre l'inflation, et comment on fait pour que ça aille le plus vite possible. Et là, je vais défendre la méthode européenne. Je vais défendre la méthode européenne parce qu'en fait, la méthode européenne dans... Alors, il y a eu une boutade qui est de dire la Banque de France, ça ne vient plus à rien. Bon, c'est oui, si vous voulez. Je veux dire, d'abord, j'interdis à personne de penser ce qu'il pense. Mais en vrai, la méthode européenne, c'est quoi? C'est de se mettre avec tous les pays qui sont dans la zone euro, donc qui gèrent la question de l'inflation au niveau de la zone euro, et de se mettre d'accord ensemble sans qu'il y ait des diktats ou des gens qui imposent leur point de vue. Alors évidemment, des fois ça prend un peu de temps, mais des fois ça prend pas beaucoup de temps. Sur l'inflation, on a été très très rapide pour dire qu'en fait l'inflation était un problème, pour le dire de manière très très claire. Et le problème qu'on avait, c'est que nous on appuie pas sur un bouton et puis l'inflation revient à 1,4. La raison pour laquelle je suis très content que l'inflation soit revenue à 1,4, c'est qu'en fait c'est l'ensemble de nos décisions économiques à nous, des 60 et quelques millions d'agents économiques, qui décident de l'inflation en France. D'accord. Et donc, du coup, ce n'est pas nous qui décidons ça. On a deux manières de faire. On a les taux d'intérêt, vous l'avez vu, ça a beaucoup monté. Ça veut dire qu'en fait, dans la question des inégalités, on a dû choisir, mais c'était un mandat légal, donc vous l'avez donné, on a dû choisir lutter contre l'inflation plutôt que favoriser l'accès au crédit, par exemple. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a aussi été beaucoup plus clair, et ça, je pense que vous avez entendu parler du gouverneur à la radio ou lu dans les journaux de la Banque de France suffisamment, pour dire, en fait, c'est très simple. La manière dont ça va se passer, c'est que nous, la lutte contre l'inflation, tant qu'on ne sera pas revenu à 2% par an, d'accord, eh bien, nous, on continuera de lutter contre l'inflation. Ça a eu un effet qui est quand même majeur par rapport à l'ensemble des études économiques qu'on connaît, et je finis vraiment en 20 secondes, c'est que d'habitude, en fait, l'inflation, quand elle est à son pic, pour qu'elle redescende, il faut 2 à 3 ans. Quand on fait des études économétriques sur le passé, on trouve 2 à 3 ans. Là, entre le pic et le plus bas, il s'est passé à peu près un an et 3 mois. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation est venue de l'extérieur, on le sait, mais par contre, la manière dont on a tous réagi collectivement, et c'est un succès pour tout le monde dans l'économie, c'est effectivement en réussissant à se coordonner pour dire, en fait, on ne va pas chacun profiter de cette situation un peu, floue, pour augmenter nos prix. Et donc, c'est ça qui a stabilisé l'inflation. L'inflation, c'est un exemple de... On s'est mis tous ensemble en Europe, on a décidé d'une politique, il n'y avait pas d'un chef qui pouvait décider quoi que ce soit, il y avait plein de gens qui étaient complètement égaux, et ça, ça a permis de faire baisser l'inflation. Et ça, c'est la défense de la méthode européenne qui est, je crois, dans un certain nombre de conférences.
Bon, on reviendra sur la méthode européenne l'année prochaine.
C'est dans les conférences.
J'ai un coupable tout désigné à côté de moi, là-bas. Il me reste moins d'une minute, donc ça va être très rapide. Je vais juste vous citer un bouquin là, qui va apparaître et dont je voulais vous parler, dont je ne vous parlerai pas. Celui d'Aaron Acemoglu et Simon Johnson. Je vous rappelle que d'Aaron Acemoglu a été intervenu au GECO l'an dernier sur comment tout réinventer. Et c'était un peu ça, ma conclusion. Et donc là, il vient de sortir en français. Enfin, il va sortir. C'est pas tout, je crois que c'est dans une semaine. Pouvoir et progrès, technologie et prospérité, notre combat du millénaire. Et en ce moment, d'Aaron Acemoglu, je trouve, est très intéressant. Il n'arrête pas de dire, il n'y a plus que le statut de l'argent qui classe. Et ça devient un vrai problème dans les sociétés. C'est la compétence, la qualification, la capacité d'innovation qui doit être prioritaire si on veut arriver à engendrer les mutations dont on a profondément besoin pour faire les transitions actuelles. Et je trouve que Daron Acemoglu est en train de mettre le doigt, évidemment, du côté de la société américaine, on va en reparler demain, de manière évidente, mais ça pourrait aussi toucher de plus en plus la société européenne. Je m'arrête là. Parce qu'on enchaîne immédiatement, hein, il n'y a pas de pause, avec la grande conférence sur l'économie peut-elle réparer le monde. Juste un mot, c'était une conférence que je voulais monter avec Philippe Martin qui est décédé juste après les GECO l'an dernier, ça a été terrible. L'idée, si c'était de mettre en avant le fait que le CEPR, qui est le plus gros think tank européen d'économie, je crois qu'ils sont à peu près 1700, a ouvert ses bureaux à Paris. Et donc, c'est aussi une manière de dire qu'on est très content de les accueillir dans le cadre des GECO et que j'espère que ça va être un compagnonnage qui va durer au fil des années. Voilà.